Bientôt, pourtant, il éprouva un mieux sensible. L'effet de la piqûre était vraiment miraculeux. Et il put s'asseoir sur le lit, le dos appuyé contre des oreillers. La voix redevenait facile. Jamais la lucidité du cerveau n'avait paru plus grande. « Vous savez, maître, dit Ramon, que je ne vous quitte pas. J'ai prévenu ma femme, nous allons passer la journée ensemble. Et quoi que vous en disiez, j'espère bien que ce ne sera pas la dernière, n'est-ce pas? Vous permettez que je m'installe comme chez moi ?» Pascal souriait. Il donna des ordres à Martine. Il voulut qu'elle s'occupât du déjeuner pour Ramon. Si l'on avait besoin d'elle, on l'appellerait. Et les deux hommes restèrent seuls dans une bonne intimité de causerie, l'un couché avec sa grande barbe blanche, discourant comme un sage, l'autre assis au chevet, écoutant, montrant la déférence d'un disciple. « En vérité, murmura le maître, comme s'il se fût parlé à lui-même, c'est extraordinaire l'effet de ces piqûres. » Puis, haussant la voix, presque gaiement, « Mon ami Ramon, ce n'est peut-être pas un gros cadeau que je vous fais, mais je vais vous laisser mes manuscrits. Oui, Clotilde a l'ordre, quand je ne serai plus, de vous les remettre. Vous fouillerez là-dedans. Vous y trouverez peut-être des choses pas trop mauvaises. Si vous en tirez un jour quelque bonne idée, eh bien, ce sera tant mieux pour tout le monde. » Et il partit de là. Il donna son testament scientifique. Il avait la nette conscience de n'avoir été, lui, qu'un pionnier solitaire, un précurseur, ébauchant des théories, tâtonnant dans la pratique, échouant à cause de sa méthode encore barbare. Il rappela son enthousiasme lorsqu'il avait cru découvrir la panacée universelle, avec ses injections de substances nerveuses, puis ses déconvenues, ses désespoirs, la mort brutale de la foisse, la phtisie emportant quand même Valentin, la folie victorieuse reprenant Sarteur et l'étranglant. Aussi s'en allait-il plein de doutes, n'ayant plus la foi nécessaire au médecin guérisseur, si amoureux de la vie, qu'il avait fini par mettre en elle son unique croyance, certain qu'elle devait tirer d'elle seule sa santé et sa force. Mais il ne voulait pas fermer l'avenir. Il était heureux, au contraire, de léguer son hypothèse à la jeunesse. Tous les 20 ans, les théories changeaient. Il ne restait d'inébranlable que les vérités acquises, sur lesquelles la science continuait à bâtir. Et si même il n'avait eu le mérite que d'apporter l'hypothèse d'un moment, son travail ne serait pas perdu, car le progrès était sûrement dans l'effort, dans l'intelligence toujours en marche. Puis, qui savait? Il avait beau mourir troublé et là, n'ayant point réalisé son espoir avec l'épicure, d'autres ouvriers viendraient, jeunes, ardents, convaincus, qui reprendraient l'idée, l'éclairciraient, l'élargiraient. Et peut-être tout un siècle, tout un monde nouveau partirait de là. « Ah, mon cher Ramon, continua-t-il, si l'on revivait une autre vie? Oui, je recommencerai, je reprendrai mon idée, car j'ai été frappé dernièrement par ce singulier résultat que les piqûres faites avec de l'eau pure étaient presque aussi efficaces. Le liquide injecté n'importe donc pas. Il n'y a donc là qu'une action simplement mécanique. Tout ce mois dernier, j'ai écrit beaucoup là-dessus. Vous trouverez des notes, des observations curieuses. En somme, j'en serais arrivé à croire uniquement au travail, à mettre la santé dans le fonctionnement équilibré de tous les organes. Une sorte de thérapeutique dynamique, si j'ose risquer ce mot. Il se passionnait peu à peu. Il en arrivait à oublier la mort prochaine, pour ne songer qu'à sa curiosité ardente de la vie. Et il ébauchait d'un trait large sa théorie dernière. L'homme baignait dans un milieu, la nature, qui irritait perpétuellement par des contacts les terminaisons sensitives des nerfs. De là, la mise en œuvre non seulement des sens, mais de toutes les surfaces du corps, extérieures et intérieures. Or, c'était ces sensations qui, en se répercutant dans le cerveau, dans la moelle, dans les centres nerveux, s'y transformaient en tonicité, en mouvements et en idées. Et il avait la conviction que ce bien porter consistait dans le train normal de ce travail. Recevoir les sensations, les rendre en idées et en mouvements, nourrir la machine humaine par le jeu régulier des organes. Le travail devenait ainsi la grande loi, le régulateur de l'univers vivant. Dès lors, il était nécessaire que si l'équilibre se rompait, si les excitations venues du dehors cessaient d'être suffisantes, la thérapeutique en créa d'artificielles, de façon à rétablir la tonicité, qui est l'état de santé parfaite. Et il rêvait toute une médication nouvelle, la suggestion, l'autorité toute puissante du médecin pour les sens, l'électricité, les frictions, le massage pour la peau et les tendons, les régimes alimentaires pour l'estomac, les cures d'air sur les hauts plateaux pour les poumons, enfin les transfusions, les piqûres d'eau distillées pour l'appareil circulatoire. C'était l'action indéniable et purement mécanique de ces dernières qu'il avait mis sur la voie. Il ne faisait qu'étendre à présent l'hypothèse. Par un besoin de son esprit généralisateur, il voyait de nouveau le monde sauvé dans cet équilibre parfait. Autant de travail rendu que de sensations reçues. Le branle du monde rétabli dans son labeur éternel. Puis, il se mit à rire franchement. « Bon, me voilà parti encore. Et moi qui crois, au fond, que l'unique sagesse est de ne pas intervenir, de laisser faire la nature. Ah, le vieux fou incorrigible !» Mais Ramon lui avait saisi les deux mains dans un élan de tendresse et d'admiration. « Maître, maître, c'est avec de la passion, de la folie comme la vôtre qu'on fait du génie. Soyez sans crainte, je vous ai écouté. Je tâcherai d'être digne de votre héritage. Et je le crois comme vous. Peut-être le grand demain est-il là tout entier. » Dans la chambre attendrie et calme, Pascal se remit à parler, avec la tranquillité brave d'un philosophe mourant qui donne sa dernière leçon.